Comment est née la physique quantique? Alors, la façon la plus simple de raconter d'où vient la physique quantique, c'est quand on prend l'exemple de l'atome. C'est l'atome, on sait qu'il existe vraiment depuis un siècle seulement. Hein, c'est un article d'Einstein en 1905, un article théorique, puis des expériences faites par Jean Perrin l'année suivante qui ont établi l'existence de l'atome. Jusqu'alors, il était envisagé par certains physiciens et son existence était contestée par beaucoup d'autres. Depuis 1907, 1906, on sait que l'atome existe. Simplement, quand on l'a découvert, on a pensé qu'il ressemblait aux atomes tels qu'ils avaient été envisagés par les atomistes grecs. C'est-à-dire une petite bille, dure, solide, bien localisée dans l'espace. Or, très rapidement, on va se rendre compte que l'atome n'a aucune des propriétés que les anciens lui attribuaient. Il n'est pas atomique, au sens où il n'est pas insécable. Il est composite, donc. Il n'est pas bien localisé dans l'espace. Et puis, il est constitué de particules dont les comportements ne sont pas ceux qu'on observe pour les objets qui nous entourent. Alors, cette destruction des qualités premières de l'atome va commencer en 1911. En 1911, Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais, fait une expérience fameuse qui montre que l'atome est un édifice composite. Il est composé d'un noyau très dense, très petit, qui porte l'essentiel de la masse de l'atome. Et ce noyau est entouré par des électrons qui tournent autour de lui à grande vitesse. Et donc l'atome contient plein de vide, parce qu'entre le noyau et les atomes, il n'y a rien. Donc l'atome n'est pas plein. Premier choc. Et puis Rutherford, dans un article de 1911, va considérer le cas de l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène. Parce que dans l'hydrogène, il y a un noyau qui est le plus simple possible, c'est simplement un proton, particule élémentaire, c'est du moins ce qu'on pensait à l'époque, autour duquel tourne un seul électron. Et donc Rutherford va dire, mais finalement ce système ressemble en miniature au système solaire. C'est-à-dire, il y a un noyau qui joue le rôle du Soleil, un électron qui tourne autour de lui et qui joue le rôle d'une planète, et puis la force qui attire l'électron vers le noyau, c'est la force électrique, qui est l'équivalent dans le système solaire de la force gravitationnelle. Ces deux forces se ressemblent, parce qu'en l'occurrence, elles sont toutes les deux attractives. Parce que le proton a une charge positive, l'électron une charge négative, donc la force électrique est attractive, et elle décroît comme l'inverse du carré de la distance, la gravitation comme la force électromagnétique. Donc Rutherford se dit finalement, l'atome est un système solaire miniature. Ce qui m'arrange, parce que ça signifie que tous les calculs ont déjà été faits par Newton et Kepler. Donc la trajectoire de l'électron, c'est une ellipse, de la même façon que la trajectoire des planètes autour du Soleil est une ellipse. Simplement, assez vite, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'électron qui tourne autour du noyau à très grande vitesse porte une charge électrique négative. Or, les équations d'électromagnétisme, qui étaient bien connues à l'époque, hein, celles de Maxwell, prédisent que dans ce cas-là, l'électron, dès lors qu'il est accéléré, il est accéléré puisqu'il tourne, donc il a une variation de sa vitesse tout au long de sa trajectoire, émet du rayonnement, il émet de la lumière. S'il émet de la lumière, il perd de l'énergie. Et s'il perd de l'énergie, sa trajectoire va se rapprocher de celle du noyau jusqu'au moment où il va s'effondrer sur le noyau. Donc ce modèle dit de Rutherford, très sympathique au premier regard, prédit en définitive que l'atome d'hydrogène est instable. Et donc il va falloir admettre. Mais c'est ce que va comprendre un jeune physicien qui s'appelle Niels Bohr en 1913. Il va falloir admettre que les lois physiques au sein de l'atome ne sont pas les lois physiques que nous connaissons. Il va se produire un phénomène extraordinaire dans les années qui vont suivre, hein, jusqu'en 1927, où des jeunes physiciens, très jeunes, 20 ans, 25 ans, vont inventer une nouvelle physique, utilisant de nouveaux concepts qui n'ont pas de contrepartie dans la réalité qui nous entoure immédiatement. La physique classique, celle d'avant, Elle est certes très compliquée, elle utilise des mathématiques très subtiles, mais on peut l'expliquer quasiment avec les mains. Parce que les concepts qu'elle utilise ont une contrepartie dans le monde qui nous entoure. Par exemple, un atome pour un physicien du 19e siècle, c'est une petite bille, c'est une réduction microscopique d'une boule de pétanque, par exemple. Or, les concepts quantiques n'ont pas d'équivalent visible dans le monde macroscopique. Et ce qui me fascine, moi, c'est que en si peu de temps, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'impulsion empirique, il n'y avait pas de signaux venant du monde de l'expérience permettant de les conduire sur la bonne voie, en leur disant vous devez travailler plutôt à partir de tel concept plutôt que tel autre. Il n'y a pas d'impulsion empirique, mais ils ont pu, guidés par l'intellect plutôt que par l'intuition, élaborer une nouvelle physique.